on est de retour avec une chanson, une histoire avec Irit Azoulay. Bonjour Irit.
Bonjour Didier.
Comment ça va bien?
Très bien.
Ah, je suis ravi de vous retrouver. J'ai une question qui me taraude, Irit.
S'il vous plaît.
En quoi est-ce que cette chronique va être-t-elle différente des autres chroniques?
Bien vu. Eh bien, vous savez quoi? Très bonne question. Parce qu'elle est très différente de toutes les 30 chroniques qu'on a fait déjà auparavant. Parce que c'est la première fois que j'ai osé choisir une chanson liturgique. Ah. Manishtana, qui vient de la Haggadah. Et au départ, je m'étais dit que je n'allais jamais faire ça.
Et eh ben, vous l'avez fait.
Et voilà. Et
ne dites jamais, hein, c'est comme ça. Et donc, la toute première fois que nous nous sommes rencontrés dans ce studio, parce qu'on se connaît, on va dévoiler des secrets d'alcôve, on se connaît quand même depuis de nombreuses années, ma chère Irit.
Notre tendre enfance.
Oui, que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, la première fois qu'on s'est rencontrés dans ce studio, c'était il y a 2 ans tout pile. C'était votre tout premier podcast et vous nous aviez parlé à l'époque d'une chanson de Pessah déjà, qui s'intitule toujours d'ailleurs Arba Achim, les quatre frères, écrite par Naomi Shemer.
Oui.
Et l'an dernier, vous êtes revenu à la période de Pessah, puisque Pessah c'est chaque année, je le rappelle à nos auditeurs.
Quelle drôle d'idée.
C'était Let My People Go.
Voilà.
À peu près. Et cette année,
c'est le fameux Manishtana qui contient 4 questions, Arba Kushiyot, et qui fait écho justement à ce quatre frères dont vous venez de parler, de Naomi Shemer.
D'accord, alors mes notions d'hébreu étant extrêmement limitées, mais quand même une question, je me souviens que c'était Sheila ou Sheilot, questions. Alors pourquoi Kushiyot sur ce coup-là?
Ah ça, oh là là, je suis sûre que les rabbins expliqueront, mais Kushiya parce que ça vient de Koshi, de difficile. Et justement, il faut rendre les choses plus difficiles, il ne faut pas avoir peur de la difficulté. Donc dès qu'on trouve quelque chose qui est difficile, qui est caché, Koshi, Kushiya, eh ben c'est une question, c'est une difficulté.
Ben voilà, j'ai une réponse à ma question.
C'est déjà le début. Mais c'est plus que ça.
C'était donc pas une kushia parce qu'elle n'était pas compliquée, ma question. Et donc, ces 4 questions qui font écho aux 4 frères que vous venez de mentionner. Mais on va d'abord écouter ce dont il s'agit.
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה, הלילה זה, כולו מצה. הלילה זה, הלילה זה, כולו מצה.
Je pense que, sans m'avancer, je peux dire que, je parle des non-religieux dont je fais partie, vous le savez, c'est probablement une des toutes premières fois qu'on est en contact avec la langue l'hébreu, parce que moi je me souviens que c'était la première chanson que j'ai apprise par cœur, hein, pour l'époque, je devais avoir 2 ou 3 ans, puisque c'est le plus jeune enfant à table qui récite le Manishtana, qui pose les questions donc au patriarche, qui était mon grand-père à l'époque, mon père maintenant, etc. etc. Donc, comme d'habitude, comme on vous suit, de manière fidèle. Il y a plusieurs versions de chaque chanson que vous nous proposez dans une chanson, une histoire. Mais celle-ci, pour ce qui concerne Manishtana, c'est probablement la plus populaire et elle fut composée d'ici 9 ans. Il y aura déjà 100 ans, 1936.
En 1936, par Ephraim Avilea. Et le texte, en fait, se trouve au tout début de la Haggadah, juste après les bénédictions, les brachot. Pour éveiller la curiosité des enfants, on demande aux plus jeunes de poser la question « Manishtana halayla hazeh mikol halaylot ?» Qu'est-ce qui différencie cette nuit-ci de toutes les autres? Et l'enfant va en fait constater 4 particularités, c'est les difficultés, les kushiyot. Il doit chercher qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui lui paraît bizarre et qu'il n'a pas l'habitude de voir au dîner. Alors il trouve en fait 4 choses. Il trouve que d'abord, tiens c'est bizarre, toutes les autres nuits on mange du pain levé, du pain azim, toutes les sortes de pain. Et cette nuit-ci on ne mange que du pain azim, que de la matzah, tiens. Et puis il dit cette nuit-ci nous mangeons des herbes amères, plus que d'habitude. Et puis, cette nuit, nous trempons les légumes dans l'eau salée deux fois, plutôt qu'une. Quant à la quatrième question, la version originale était « Toutes les autres nuits, nous mangeons de la viande grillée ou cuite, alors que cette nuit-ci, seulement grillée. » Mais ça, on ne le dit plus. La viande grillée, en fait, faisait référence à l'offrande pascale, à l'agneau qu'on sacrifiait sur l'autel du temple. Mais une fois que le second temple fut détruit par les Romains et qu'on ne pouvait plus y faire des sacrifices, la question sur l'agneau pascal a été remplacée par une question concernant la posture. Pourquoi cette nuit-ci, nous sommes tous accoudés ? Ben Yoshvin ou Ben Mesubin. Les rabbins ont élaboré tous ces rituels pour éveiller notre curiosité et pour nous pousser à chercher des réponses. L'essence même de la fête de Pessah est de poser des questions. En cela, le Manishtana nous rattache aux quatre frères, n'est-ce pas ? Vezecheloya Dalishol est celui qui ne sait pas poser de questions. Eh bien, il faut le pousser à poser des questions et à trouver. Pourquoi ? Parce que sans avoir posé la question auparavant, on a beau recevoir des réponses sur un plateau d'argent, mais cela n'éveillera rien en nous. On ne peut être réceptif aux choses que lorsqu'on a le désir de les comprendre. Le questionnement aiguise notre cerveau et nous conduit inévitablement aux réponses qui correspondent à notre état d'esprit du moment. Même si on se pose la même question tous les jours, vous allez constater que la réponse que vous allez trouver chaque jour sera différente de jour en jour. C'est ce qu'on appelle évoluer. C'est pourquoi dans toutes les cultures, les vieux sont considérés comme les sages, pas seulement parce qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances avec le temps, mais surtout, ils ont acquis beaucoup d'expérience et de la maturité.
Je suis donc devenu un sage. Si je comprends bien, le Manishtana ne fait qu'énoncer en fait des questions, mais où est-ce qu'on trouve les réponses ?
Ah ben voilà, bravo pour cette question Didier.
C'est ce que je peux quand même.
Le Manishtana consiste en quatre questions auxquelles la Haggadah ne donne au fait aucune réponse explicite. Vous connaissez sûrement les réponses dites classiques qu'on va donner aux enfants. Pour la matzah, on va dire que c'est parce que nos ancêtres qui voulaient fuir l'Égypte n'avaient pas le temps de faire lever le pain avant de le cuire. Et puis pour les herbes amères, on dira que c'est pour se souvenir de l'amertume, parce que c'est amer et que nos ancêtres ont vécu des moments très difficiles et de la souffrance pendant l'esclavage. Et quant aux légumes qu'on trempe dans l'eau salée, on dira qu'on les trempe une première fois en souvenir des larmes de nos ancêtres et la seconde fois en souvenir de leur courage car ils ont sauté dans l'eau avant même que Dieu n'ait déclenché l'ouverture de la mer. Et puis on mange accoudé pour signifier que nous sommes libres parce qu'à l'époque cette posture était réservée aux élites et interdite aux esclaves, faisant référence au banquet gréco-romain où les convives étaient étendus sur un lit, accoudés sur le côté gauche et prenaient la nourriture avec la main droite.
Les fameuses bacchanales.
Bah voilà. Mais dans la Haggadah, nous allons trouver quand même une réponse plus appropriée qui est l'histoire elle-même du peuple d'Israël, parce que directement après le Manishtana apparaît l'histoire de l'esclavage en Égypte. Et on dit tout de suite « Avadim hayinu leparo b'mitzrayim ». En fait, la réponse, c'est quoi ? C'est l'histoire elle-même, notre histoire. Ceci fait écho à la phrase talmudique qui dit « Da me'ain bata ule anata holech »« Sache d'où tu viens et vers où tu vas et devant qui tu seras amené à rendre compte. » En d'autres mots, les parents doivent répondre à leurs enfants en leur racontant leur histoire. « Vehi gadeta levincha bayom hahu » Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cette nuit est si différente des autres si on n'apprend pas l'histoire de nos ancêtres. On dit qu'à chaque génération, chacun de nous doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Cela veut dire quoi ? Qu'il ne s'agit pas d'un simple récit historique lointain, mais que nous devons nous mettre dans la peau de nos ancêtres et ressentir leur vécu afin de bénéficier de leur expérience. Nos ancêtres ont vu et entendu Dieu en personne lorsqu'il s'est révélé au Bnei Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte, au pied du mont Sinaï. Et puisque on se voit nous-mêmes comme étant sortis d'Égypte, on se met dans la peau de nos ancêtres et alors nous sommes toutes et tous des témoins oculaires de l'existence de Dieu. Puis, en évoluant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir Dieu, car on l'a déjà vu. Et depuis lors, on sait qu'il est là. Les générations suivantes, donc, appelleront ça croire, avoir la foi.
Ah, ben clairement. Alors, il y a un truc qui me taraude encore une fois. Hein, je suis un petit peu là pour ça, pour vous poser les questions.
Mais je vous en prie, c'est fait pour.
On parle de 4 questions, si je ne me trompe pas. Le chiffre 4 est permanent et omniprésent dans l'histoire de Pessah.
Absolument.
Dans la Haggadah, en tout cas. Pourquoi ?
Mais notez que la Haggadah, d'abord, elle est bourrée de tous les chiffres et de toutes sortes de calculs. Si
pas
vous
faux.
Regardez, c'est incroyable. Mais à croire qu'elle a été écrite par des mathématiciens, d'ailleurs. Mais on clôture, d'ailleurs, la soirée de Leil Seder par cette fameuse chanson « Echa ad mi yodea ». Et ça offre un sens symbolique à chacun des chiffres entre 1 et 13. Mais bon, on parlera de ça peut-être l'année prochaine pour un autre podcast. Mais je vais revenir aux 4. Donc, traditionnellement, même si on dénombre certaines choses et qu'on leur suggère un sens symbolique, on va toujours trouver le moyen de les faire grandir. Par exemple, aux 4 fils s'ajoutera un 5e fils, celui qui ne prend même pas la peine de se présenter au Seder. Le rabbi de Lubavitch nous dit « Ne l'abandonnez pas, il finira par venir ». Et puis ainsi, aux 4 coupes de vin, on ajoutera une 5e coupe, que vous connaissez sûrement, Didier. C'est le verre de... du Élie. Prophète Eliyahu, voilà, Hakoshel Eliyahu Anavi. Et puis, on a aussi les 4 mères, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, qui ont engendré de nombreuses autres mamans, tout aussi importantes, etc. Il y a beaucoup de 4.
C'est pour ça qu'on dit alors un verre, ça va, 4 verres, bonjour la Gada. Non, c'est pas ça. Oh, d'accord. Pardon.
C'est qui ce on qui dit ça?
Je ne sais pas.
Mais Didier, on arrive au chiffre 4 le plus intéressant de tous. Mm-hmm. C'est le tétragramme.
Oula.
Le nom explicite de Dieu qui est composé de 4 lettres. Yud, Hei, Vav, Hei. Certains l'appellent aujourd'hui Jéhovah, Yahvé. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait même pas comment prononcer ces 4 lettres.
Et je me suis dit qu'on n'a même pas le droit, théoriquement.
Voilà. On n'a pas le droit, mais... Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que la prononciation correcte du tétragramme a été perdue. L'écriture hébraïque, n'utilisant pas de voyelles, et le judaïsme, interdisant de prononcer ce nom en dehors de l'enceinte du temple. Et donc, les écrits saints dénombrent des dizaines d'appellations différentes pour Dieu, mais le tétragramme est celui de la transcendance, du surnaturel. Dieu ne s'est pas révélé par ce nom-là à Abraham, Isaac et Jacob, mais seulement à Moïse et au peuple tout entier. Donc Yud-Hei-Vav-Hei est en dehors du temps et de l'espace. D'ailleurs, ce nom est construit autour du verbe être. Yud-Hei-Vav-Hei, on trouve dedans l'ihiyot, le être conjugué au futur, au présent et au passé. Les 3 formes en un seul mot de 4 lettres. Hu-Haya, Hove, Ihiye. Si ceux qui comprennent l'hébreu, c'est magnifique. Il était, il est et il sera se trouve dans ces 4 lettres-là. Mais tout dépend comment on les lit, puisqu'on n'a pas de voyelles. Le temps aura donc une importance majeure à Pessah. Connaissez-vous la différence entre le pain levé, le chametz, et la matzah?
Ah bah oui, parce que j'écoute attentivement Nechamatawil et nous l'a expliqué pas plus tard que la semaine dernière.
Ben oui, ils sont tous les deux composés de farine et d'eau, mais quelle est la seule chose qui les différencie?
Il y en a un qui n'a pas le temps de fermenter, à qui on ne laisse pas le temps de
fermenter. Voilà, c'est le temps.
Avec un clin d'œil à Nechama, elle a vu que j'ai bien écouté.
Eh ben bravo Nechama, j'apprends d'elle aussi beaucoup. Donc oui, c'est le temps qui fait la différence, le délai d'attente. Pour le pain, on doit attendre au moins 2 heures pour qu'il lève, alors que la matzah, du moment où l'eau entre en contact avec la farine et jusqu'à son entrée dans le four, la pâte doit passer rapidement d'une étape à l'autre sans délai. Au total, on n'a pas le droit de dépasser les 18 minutes. Alors, à quoi ça rime de préparer du pain aussi rapidement ? Je vais dire autre chose que ce que Nechama a dit.
D'accord, allons-y.
Le cerveau humain est composé, et non, il n'est pas composé de l'eau, mais il est comparé à l'eau. Et la pensée, la réflexion, elle est comparée à la farine. Mmh. Donc, à partir du moment où une pensée, une réflexion pénètre le cerveau, le compte à rebours commence. Si l'homme réfléchit trop longtemps, sa pensée risque de lever et puis de tourner.
Bah donc ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps en fait.
Justement, on revient à la notion du temps. Cela dépend à quel moment.
D'accord.
Parfois, il faut agir rapidement, sans réfléchir. Et parfois, c'est le contraire.
Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ?
Ah, depuis notre naissance, nous entraînons notre cerveau à reconnaître les moments où il faut se hâter et ceux qui doivent se prolonger dans le temps. Si une pensée diabolique pénètre notre cerveau, nous savons la reconnaître et nous devons alors la chasser rapidement avant qu'elle ne lève et nous pourrisse la vie. Les Hébreux devaient se sauver leur peau, et donc rapidement, parce que le cœur du Pharaon était en train de durcir de plus en plus. Ils n'avaient donc pas le temps de réfléchir ni de laisser le pain lever. C'était une question de vie ou de mort. Cela étant dit, le peuple d'Israël a vécu, lui, 40 ans dans le désert, alors qu'ils auraient pu le faire en quelques jours, avant de prendre la décision de conquérir Canaan, sa terre promise.
Ah ben, même si ça reste un multiple de 4, on est passé de 4 à 40.
Ben oui, voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais ce n'est pas un hasard, parce qu'en hébreu, le chiffre 4, comment on dit ? Arba. Mm-hmm. Et ça vient de la racine Reish Bet Ain Reva Riboa Meruba, ce qui veut dire un carré. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne peut quasi rien trouver dans la nature qui soit naturellement créé en forme d'un carré ?
Non, je n'ai jamais prêté attention à ça, mais je vous crois sur parole, ma chère Irène.
Mais le monde lui-même a été créé rond et l'écrasante majorité des créatures sont plus ou moins arrondies. Il en ressort qu'il faut l'intervention de l'homme afin de modifier quelque chose pour le rendre carré. L'abondance du chiffre 4 dans l'histoire de Pessah est donc due au fait que ce chiffre symbolise le miracle métaphysique. Le carré est donc un signe distinctif de la liberté humaine qui domine le monde matériel. Le message à l'homme est celui-ci. Tu es capable de façonner ta propre existence. Alors ne sois pas soumis à la nature en disant « C'est ma nature, je suis né comme ça et je ne peux rien y changer ».
Oui, mais enfin, en même temps, il est plus facile de blâmer sa nature qui nous a soi-disant fait ainsi. Ça nous décharge d'une certaine forme de responsabilité, non ?
Ben oui, bien sûr, ça nous décharge de la prise de responsabilité et du coup, ça nous décharge de la prise de décision. En fait, la nuit de Pessah représente le souvenir de la décision que nous avons prise, celle de ne plus être esclaves et de fuir l'Égypte. En hébreu, comment on dit Égypte ? Mitzrayim. Mmh. Ah. Et c'est la seule langue qui le dit ainsi. Et on se demandait d'où vient ce nom. Donc ce nom est composé de Mitzar. Tzar, c'est étroit. Et en fait, la terminaison aïm, comme il y a daïm, osnaïm, c'est le double, le duo. Et donc Mitzrayim, ce sont en fait deux bras de mer étroits, c'est-à-dire deux détroits. Et il paraît que Mitzrayim se trouve entre deux détroits. Et à Pessah, nous avons décidé de sortir de cette étroitesse qui fut finalement notre zone de confort.
Clairement.
Mais c'était trop étroit. Il fallait partir en voyage vers la liberté. Un voyage qui ne se termine jamais vraiment. Mais tant qu'on marche, on franchit des étapes qui nous rapprochent de plus en plus de la liberté, tant physique que psychologique. Chaque année, en lisant la Haggadah, nous allons dire « Hashata avada yileshana haba'a b'nei chorin », c'est-à-dire cette année, nous sommes esclaves, l'année prochaine, nous serons libres. Mais chaque année, nous sommes esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Et chaque année, nous devons décider de ne pas baisser les bras et de poursuivre le voyage vers la liberté. La Haggadah nous apprend, entre autres, ces trois choses. Premièrement, que chaque lieu où vous vivez, c'est probablement l'Égypte. Mitzrayim. Deuxièmement, qu'il existe bel et bien un endroit meilleur, une terre promise.
Eretz Israël.
Voilà. Et troisièmement, que pour arriver à cette terre promise, vous devez traverser le désert. Il n'y a pas d'autre choix. Vous n'avez aucun autre moyen d'y arriver d'ici vers là-bas, à moins de rejoindre les autres et de marcher.
Marcher, marcher, voilà. Encore marcher.
Continuer le chemin et on y arrivera. Et donc, cette année, on espère qu'enfin les otages trouveront la liberté totale et rapide.
On leur souhaite. En tout cas, Irit Chag Pesach Sameach.
Oui.
Et puis, ainsi qu'à vous toutes et tous qui nous écoutez.
À tous nos auditeurs.
Et on espère que cette année, comme vous le disiez, eh bien, on verra la lumière au bout du tunnel et ce n'est pas
c'est
un mauvais jeu de mots pour
exact.
Le coup.
Amen.
Merci infiniment et on se quitte
merci,
avec Manish Tana.
À la prochaine.
Bonne fête à vous.
הלילה הזה מכל הלילות מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה חמץ ומצה הלילה הזה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות שאר ירקות הלילה הזה הלילה הזה הוא לא מרור הלילה הזה הלילה הזה שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת אפילו פעם אחת הלילה זה הלילה זה שתי פעמים הלילה זה הלילה זה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין בין יושבין ובין מסובין הלילה הזה הלילה הזה הוא